Bonjour à toutes et à tous, ce soir, à occasion spéciale, émission spéciale. EJT Sport est allé pour vous suivre le Stade Toulousain au Pays Basque, à Bayonne samedi. Une opportunité pour nous de vous faire vivre le rugby en ces terres. Bien entendu, on parlera des autres sports et pour ce faire, j'aurai à mes côtés Maud Cazabès. Salut Maud.
Salut Geoffroy. Et oui, une émission d'EJT Sport centrée sur le match Bayonne au Stade Toulousain. Et pour nous raconter ce voyage, on aura les chroniqueurs suivants.
Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous.
Comme la semaine dernière, Arnaud et Florent rempilent pour parler de Bayonne. On débriefera le match du stade, bien entendu, et un petit retour sur la Pro D2. Marine revient sur la défaite du Phoenix contre Chartres. Gros trou d'air pour les Toulousains.
On connaissait nos limites, là nous ont giclé en pleine gueule.
Ce week-end a été marqué par la belle victoire des Spacers contre Tours, le leader de la Ligue A. Gauthier nous en parlera. Et pour terminer, Corentin conclura par le Flash Sport.
Et donc maintenant, sans plus attendre, direction Bayonne pour une rubrique qui n'a jamais aussi bien porté son nom, Caramel et Chistera.
Donc on se tait et on reste concentré sur ce jeu.
C'était samedi, les Rouges et Noirs ont perdu à Bayonne 20 à 10, encore une défaite loin de leur terre, hein. La huitième en 9 matchs à l'extérieur cette saison. Alors qu'on se le dise, c'était pas franchement un grand match, hein. 3-0 à la mi-temps, je crois que ça parle à n'importe quel auditeur. Et c'est Toulouse qui était mené, ils prennent quand même l'avantage à l'heure de jeu mais repassent très vite derrière l'aviron. Des Basques qui ont su se montrer réalistes et qui méritent leur victoire acquise grâce à un essai d'Alofa en fin de match.
Alors c'est vrai que pas mal de grosses écuries du top 14 se sont déjà cassées les dents à Jean Daugé, mais Arnaud et Florent, le match du stade était pauvre en termes de jeu, non ?
Oui, c'était un match vraiment compliqué, certainement un des plus mauvais du stade cette année. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas vu une bouillie pareille, franchement on peut le dire. Il y avait très peu d'action, pas de temps de jeu, ça a pas réussi à enchaîner les passes, des erreurs techniques que les Toulousains ne font pas d'habitude. Enfin, c'est vraiment un match à oublier, il va falloir vite passer à la suite.
Il y a vraiment eu un jeu stérile du stade, ils ont plutôt pas mal possédé le ballon, enfin, c'était assez équilibré la possession, mais au final, quand on regarde le stade, c'était la majeure partie du temps dans son camp, avec, comme disait Arnaud, très peu de temps de jeu. Pour revenir vraiment sur le stade en tête dans ce match, ça a duré 1 minute 50, donc c'est vraiment rien, c'est jamais arrivé au stade cette année. Bayonne a plutôt bien maîtrisé son sujet et a su profiter des conditions climatiques qui n'étaient pas forcément très simples, et ça a totalement bloqué le jeu des Toulousains. On a pu voir plusieurs joueurs en difficulté, notamment Justin Colby, où on n'a pas vraiment l'habitude. Bon,
ça c'est rare, ouais.
On va pas lui taper dessus, hein. C'est un match, combien il en a fait d'excellent après, mais d'habitude lui il est si impérial sous les ballons hauts. Là il en a eu un excellent. Et après, on l'a vu commettre, pas des en avant, mais il a fait des petits en arrière. Ça a été assez difficile, ouais.
Ouais, au-delà de Colby, pareil, ce qui illustre vraiment ce mauvais match, c'est la charnière. Elle a été très, vraiment en difficulté. Voilà, Pierre Pagès, il n'a pas su saisir sa chance. On sait qu'il a pas forcément beaucoup d'opportunités de jouer avec deux gros concurrents à son poste. Ils sont tous les deux absents et honnêtement, ils n'auront pas de mal à récupérer leur place quand ils vont revenir. Et pareil pour Zach Holmes, où on peut quand même espérer un peu plus de Zach Holmes qui nous a montré qu'il était capable de faire de bonnes performances. C'était un joueur qui était titulaire l'année dernière pendant les phases finales. Et là, vraiment, ça a été compliqué.
Et quand on sait à quel point la charnière est importante au stade, on voit qu'une charnière qui n'est pas performante joue beaucoup sur la qualité du jeu toulousain, puisque UG a touché seulement un ballon dans le match. C'est assez inquiétant. Contre Montpellier, on en avait touché un peu plus d'une dizaine. Un ballon pour un ailier au stade toulousain, c'est très peu.
Oui, on voit que le Stade Toulousain peine à retrouver son niveau de l'année dernière. D'ailleurs, je ne sais pas ce que t'en penses Arnaud, mais on ne peut pas dire que ce soit une bonne opération pour les Hauts-Garonnais dans la course aux phases finales.
C'est même une très mauvaise, ils sont éjectés du top 6, donc là, si la saison devait se finir, ils ne joueraient même pas les phases finales, ce qui est quand même assez incroyable pour le Stade, et puis surtout pour un champion de France en titre. Donc c'est vraiment une très mauvaise opération. Ils auraient pu, on aurait pu penser que ce match allait leur permettre de repartir de l'avant et d'engranger des points à l'extérieur, ce qu'ils ont beaucoup de mal à faire cette saison. Et au contraire, voilà, ils sortent du top 6 avec le Clermont qui prend le bonus à Agen, ce qui ne fait pas forcément les affaires des Toulousains. Donc il va falloir vite se remettre dedans, et puis jusqu'à la fin de saison, les Toulousains ne vont pas avoir beaucoup le droit à l'erreur.
Ouais, surtout Cormi, Montpellier et La Rochelle, tous les autres concurrents directs ont gagné, donc Clermont qui prend le bonus à Agen, Toulon qui s'impose, bon, de justesse, mais qui s'impose. Le Racing qui donc atomise La Rochelle 49-0, un match très, très, très impressionnant, et le Racing va falloir compter sur eux pour plus tard. Donc c'est vraiment pas une bonne opération, même si on sait que Bayonne c'est difficile. Mais quand on voit les matchs qui arrivent, et notamment le match qui arrive, ça craint.
Oui, et puis j'ai envie de revenir là-dessus. Vraiment, 6 points pris sur 45 à l'extérieur, c'est assez incroyable, surtout quand on sait que l'année dernière, c'était une de leurs forces. Les Toulousains n'ont quasiment pas perdu de la saison. Et là, c'est vraiment une seule victoire à l'extérieur. C'est très, très insuffisant.
Ouais, donc les deux semaines de vacances tombent à pic pour les joueurs du Gomola. Ils joueront leur prochaine rencontre le 21 mars face au Loup à Ernest Vallon.
Et à Bayonne, donc, on a eu la chance de croiser deux touristes, pas comme les autres. C'était Cyril Baye et Sébastien Bézi qui n'ont pas fait le déplacement avec le reste du groupe. Ils étaient blessés, faut le savoir. Pourtant, ils étaient bien dans la ville. Venus soutenir les copains et puis profiter d'une ambiance assez unique. On les écoute et on écoute le demi de mêlée.
En tant que joueur de rugby, voilà, on sait très bien qu'il y a une super ambiance ici, avec des supporters qui chantent énormément pendant le match, donc c'est un club mythique aussi, voilà, du rugby français, donc voilà, c'est sûr que venir jouer à Bayonne, ça, c'est plaisir pour chaque joueur de rugby.
Et on peut saluer le geste du Toulousain qui a quand même tenu à venir supporter ses coéquipiers alors qu'il quittera le stade pour le rival de l'ASM Clermont l'année prochaine.
Oui, c'est exactement. On a eu la chance de les croiser un petit peu par hasard, donc on en a profité pour discuter avec eux. Et pour revenir sur Cyril Baye, le pilier qui était avec Sébastien Bézi du coup à Bayonne, on se souvient, il est sorti pendant le tournoi Destination lors du dernier match au Millennium Stadium sur une blessure, et il nous a confié que tout se passait bien, que sa rééducation était en marche et qu'il devrait être de retour. En tout cas, c'est son objectif d'être de retour pour le quart de finale de Coupe d'Europe contre Exeter, et le stade en aura bien besoin, surtout que c'est son remplaçant à Toulouse qui a été pris avec l'équipe de France, donc on l'attend avec impatience son retour à Cyril Baye.
Oui, d'ailleurs au niveau des blessures, on a un peu discuté aussi avec Sébastien Bézi puisqu'il avait une commotion au Racing. Là il est certainement sur le retour. Bon, il va y avoir les deux semaines de pause comme tu as dit tout à l'heure, donc Bézi, on devrait le revoir à l'entraînement d'ici la semaine prochaine normalement, et donc dans 3-4 semaines il me semble, ouais, 3-4 semaines en top 14.
Ouais, même peut-être avant, je pense que pour le Loup on pourra compter sur lui, et lui il était vraiment impatient de reprendre, il se sent bien, donc une fois que les 3 semaines vont être observées, ça devrait aller pour le Loup. Hein.
Et à Bayonne, Geoffroy, UJT Sport a rencontré des joueurs, mais pas que.
Bah oui, on s'est fondu dans la furia bayonnaise. Je peux vous dire que les supporters toulousains s'y mêlaient plutôt bien.
Ah oui, il y avait une bonne ambiance sur place.
Ah oui, plutôt. Et donc, dans ces rues animées de la ville basque, on a eu l'occasion de rencontrer quelques supporters. Ils étaient plutôt en forme.
Et on les a bien vus et entendus chanter en basque toute la journée. Plein de drapeaux rouges et noirs flottaient le long de la Nivée de la Dour, mais également au pied de la cathédrale Sainte-Marie. Bref, le bleu et le blanc n'étaient pas les seules couleurs présentes à Bayonne ce samedi. Et une petite ruelle près des Halles a plutôt attiré l'attention. Un grand drapeau des Salopettes rougies planait entre les immeubles. Pour ce déplacement pas comme les autres, ce club de supporters du stade avait privatisé une peña, ces petits bars qui font la renommée de la cité basque. Hugo, membre du club, ne pouvait pas manquer ce voyage, et ce, pour plusieurs raisons.
Pour la ville, pour l'ambiance, pour la Peña Bayona, pour le sport quoi aussi quand même, hein, avant tout.
Bien sûr, pour le sport avant tout, on va le croire. Hein. Surtout que quelques minutes plus tôt, il avait confié ça au micro.
Il y a des peñas partout, donc pour faire la fête, c'est bien.
Donc Bayonne, c'est surtout la fête. On pense évidemment au célèbre feria de la deuxième ville des Pyrénées-Atlantiques où 1 million de personnes assaillent les rues pendant 5 jours au milieu de l'été. Mais les festivités, c'est aussi lors de chaque match de l'aviron à Jean Daugé. Et ça, les supporters toulousains l'ont plutôt bien compris.
C'est la fête, c'est on perd, on gagne, on s'en fout ça.
Le rugby, je m'en fiche un peu, je suis là pour profiter des gens qui sont là, dans une bonne ambiance très conviviale.
Bayonne, c'est une ville avec une mentalité d'un petit village. On fait des connaissances, c'est cosmopolite.
Alors, même si beaucoup sont venus pour s'amuser et découvrir ce qu'était vraiment la furia basque, certains supporters n'ont pas pu s'empêcher de livrer leur analyse sur le match.
Les Toulousains ont été nuls, les Bayonnais mauvais, mais comme nul c'est moins bien que mauvais, Bayonne a gagné.
Voilà, on ne pouvait pas mieux décrire cette rencontre entre l'aviron et le stade, surtout après avoir bien entamé la troisième mi-temps.
On applaudit à vos exploits, c'est gagné.
Et voilà. Voilà une belle Peña Bayona captée au cœur de Jean Daugé avec des voix que vous aurez sans doute reconnues.
Ouais, j'insiste, hein, c'était magnifique. Allez, on ferme le chapitre de cette rubrique spéciale et du top 14. Et de Bayonne à la Pro D2, il n'y a qu'un pas, ou Toulouse, hein, il n'y a pas de raison, avec un derby entre Carcassonne et Montauban qui a tourné à l'avantage de l'USC.
Ouais, les joueurs de la cité l'ont emporté 23-14, pourtant les Montalbanais menaient 14-9 à la pause, mais ils n'ont pas été capables de scorer en seconde période et donc rentrent bredouille de l'Aude. Au classement, rien ne bouge pour les deux équipes. Carcassonne est toujours 10e avec 7 points de retard sur le top 6, donc un retard assez conséquent s'ils veulent jouer la montée en top 14. Malgré la défaite, par contre, les Tarn-et-Garonnais, eux aussi, restent à la 13e place. Ils conservent un bon petit matelas d'avance sur la zone rouge avec 10 points. Prochain match de Carcassonne, c'est ce vendredi à Aurillac et les Montalbanais, eux, auront fort à faire puisqu'ils recevront Perpignan dimanche à Sapiac.
Et Colomiers qui cartonnent toujours autant en haut de tableau.
Ouais, c'était le choc de cette 22e journée. Les Columériens se sont imposés à domicile contre Oyonnax, 22-19. Julien Sarotte et les siens peuvent regretter d'avoir concédé un essai en toute fin de match qui a permis aux Oyomen de ramener un point de Michel Bendichou. Mais bon, on va pas être difficile non plus. Colomiers distance maintenant de 5 points Grenoble qui est 3e. Le club à la Colombe partage désormais le fauteuil de leader avec Perpignan, revenu à hauteur grâce à son bonus offensif pris contre Rouen, avec, s'il vous plaît, 8 essais à la clé. Vendredi soir, Colomiers accueillera Provence Rugby pour le compte de la 24e journée.
Un défi qui devrait permettre aux Hauts-Garonnais de continuer sur leur lancée, sauf accroc de dernière minute.
Oui, parce que bon, leurs adversaires sont 12e au classement, mais on le sait, hein, la Pro D2 s'est serrée jusqu'au bout. Merci Arnaud, merci Florent de nous avoir fait vivre vos aventures basques. C'était pas vraiment une terre hostile, hein, loin de là, je pense. Et maintenant, c'est au tour de Marine, notre spécialiste Han, de nous parler un peu du Phénix. C'est parti pour Pastis et Roucoulette avec Marine Clette.
On a beaucoup de respect pour cette équipe, on a beaucoup de respect pour tout ça, mais le meilleur respect qu'on va avoir, c'est de les défoncer, quoi.
Colossal, gigantesque, fantastique, phénoménal.
Défaite amère pour les handballeurs du Phénix, le mur de Chartres s'est avéré trop haut. Les joueurs de Philippe Gardant se sont inclinés 33-29 après avoir été menés au score durant tout le match. Le Phénix n'y était pas et ça s'est senti dès les premières minutes, Marine.
Ouais, c'est ça, Maud. En fait, l'équipe, elle est mal rentrée en première période et donc après, elle a cherché à inverser la tendance pendant 60 minutes. Mais le problème, c'est que quand on court au score, forcément, la moindre erreur, elle est fatale. Et il y en a eu beaucoup, des erreurs techniques mercredi dernier. Il y a eu beaucoup d'échecs au tir en attaque. Et en défense, au niveau individuel, il y a eu beaucoup de duels qui ont été perdus. Donc, bah, clairement, le Phénix n'a pas su revenir au score. Et puis, collectivement aussi, on a observé quelque chose qu'on n'observe pas souvent au Phénix, c'est l'absence totale de communication en défense, c'est-à-dire qu'ils se sont fait complètement transpercer. Pendant la première mi-temps, il y a eu quand même 19 buts de Chartres, ce qui est un gros score en une mi-temps, 19 buts. Voilà, on a beaucoup de joueurs donc qui étaient tout simplement absents du match. Et tout ça, ça donne un bilan acéré de l'entraîneur Philippe Gardant.
On connaissait nos limites, là, nous ont giclé en pleine gueule. Et que ce soit au niveau de Saraf ou celui-là, je pense qu'on a à peu près les mêmes ingrédients. On a beaucoup de tirs ratés, puis une défense catastrophique. Et là, pour moi, c'est impardonnable parce qu'on n'est pas invité et on mérite ce qu'on a. Et moi, je trouve que là, on a été vraiment d'une tendresse insupportable. Et le hand, c'est quand même un sport de combat. Là, où est-ce qu'on a vu du combat? Mais est-ce qu'ils en prennent conscience? Je suis pas sûr. On peut discuter de tout, mais à partir du moment où moi, j'ai pas d'investissement avec les mecs, moi, ça me va pas.
Donc, simple piqûre de rap. Rappel ou alerte rouge pour le Phénix?
Disons que c'est quand même un gros rappel à l'ordre. En fait, ils comptaient sur ce match pour lancer la dynamique de la deuxième partie de saison. Cette deuxième partie de saison, elle était lancée par les matchs contre le PSG ou Saint-Raphaël, donc un peu un faux départ parce que c'était quand même des gros matchs pour le Phénix. Mais là, il y a eu Tremblay, il y a eu Chartres, donc c'était voilà, l'occasion vraiment d'avoir une dynamique. C'est un peu raté, après ça gâche pas forcément la première partie de saison, mais on va dire que ça noircit un peu le tableau.
Bon, et donc pour le capitaine Pierrick Schell, c'est avant tout un problème de concentration.
C'est surtout qu'on n'a pas l'habitude de lutter à ce niveau-là. Et justement, la force des équipes qui sont devant nous, c'est qu'elles arrivent à remettre le couvert toutes les semaines et avec le même investissement, la même volonté. Et nous, on se laisse un peu perturber par des petits bobos à droite à gauche. Voilà, on se laisse un peu porter et c'est vrai que c'est un manque d'expérience globale. Voilà, et il va falloir prendre note et justement redresser la barre.
Redresser la barre parce que l'équipe est peut-être trop jeune, Marine?
Pas forcément trop jeune, mais en fait, des trous d'air comme ça, comme a vécu le Phénix, ça va mine de rien assez vite. L'équipe, elle a du punch de septembre à décembre. Après, il y a un mois et demi de pause. Et à la fin, on se retrouve là, en mars, avec une équipe à l'effectif qui est très disparate. Donc, En fait, on sait, c'est une équipe surprise du haut du tableau. On n'a pas l'habitude de la voir à ce niveau-là. Mais on a quand même, enfin, ils ont quand même des joueurs avec de la bouteille. Il y a des joueurs comme Pierrick Schell, Luke Steins, Nemanja Ilić. Ce sont des joueurs qui ont l'habitude, voilà, de faire quand même des gros matchs. Et il y a aussi des joueurs avec de l'expérience en compétition internationale. Abdi, il a fait la CAN en Afrique. Solé Salah, il a fait l'Euro. Nori Benalima, il a fait l'Euro des jeunes aussi. Donc tous ces joueurs-là, ils sont censés avoir l'appréhension des grands matchs. Ils sont censés savoir les jouer et tenir notamment toute une saison. Et on a l'impression que l'équipe, finalement, elle n'a pas trop cette appréhension-là. Elle n'a pas trop... Enfin, elle n'a pas tout le temps, tout du moins. Et là encore, Philippe Gardant, il est assez clair. Tout le monde dans l'équipe n'affiche pas la même ambition.
Ce qui m'agace, c'est que des fois, j'ai la sensation que, voilà, on était en haut du classement. Pas forcément toujours l'impression qu'ils ont tous envie d'aller croquer là-haut parce que c'est exigeant d'aller là-haut. Et des fois, je trouve que psychologiquement, on est une équipe un peu tendre et faible. Pour moi, il y a un manque de croyance, alors, parce que je pense qu'on a le potentiel pour pouvoir faire quelque chose. Alors peut-être trop d'humilité pour certains et peut-être pas assez pour d'autres.
Voilà, donc trop ou pas assez d'humilité, donc peut-être des petites introspections personnelles à faire. Mais il ne s'agit pas non plus de faire du mental le bouc émissaire des mauvaises passes du Phénix, comme l'explique encore Philippe Gardant.
Il ne faut pas tomber dans une forme de léthargie en disant « c'est mental ». Enfin, on fait qu'un match par semaine. Quoi. Je veux dire, les autres, ils font deux matchs par semaine, ils n'arrêtent pas de voyager dans tous les sens, tous ceux qui font les Coupes d'Europe. Je veux dire, on n'a pas à se plaindre de dire que c'est mental, c'est comme d'autres métiers. Donc voilà, donc, de temps en temps, il faut remettre un petit peu donc, l'église au centre du village. Et on va se battre pour essayer d'avoir une Coupe d'Europe. Et si on va faire la Coupe d'Europe, si déjà un match par semaine, on chougne, ça ne va pas le faire. Hein.
Bon, et d'après toi, contre Ivry, Marine, ça va le faire ?
Eh bien, je l'espère fortement, Geoffroy. La défaite contre Chartres a vraiment été difficile à avaler et je pense que les supporters en attendent beaucoup de ce match contre Ivry ce soir. Il y a quelques éléments qui sont passés au vert. Les blessés qui sont revenus, par exemple Steins, il va jouer normalement. Marcus Olsson aussi a retrouvé son épaule, donc normalement, il va être plus offensif en attaque, donc plus dangereux, donc il va faire bouger la défense adverse. Donc normalement, déjà en attaque, ça va bouger. C'est un peu comme, on va dire, un deuxième souffle là, par le nombre, donc avec ces joueurs qui reviennent. Après, il ne faut pas oublier qu'Ivry a battu Saint-Raphaël chez eux. Ils ont battu Montpellier chez eux. Donc, ils sortent d'une grosse défaite contre Aix, mais peu importe pour eux, ils jouent pour ne pas descendre. Donc, c'est un peu vraiment la vie ou la mort. Ils ont cette niaque que le Phénix semble parfois avoir laissée au vestiaire.
Ouais, donc on se réveille face à Ivry.
Ouais, c'est clairement ça.
Merci Marine. La prochaine journée sera marquée par le déplacement dangereux de Nantes à Saint-Raphaël et Nîmes qui monte affronter le leader PSG pour pourquoi pas créer l'exploit, ce dont l'USAM est plutôt habitué ces dernières années. Quand le handball fait la passe décisive au volet, c'est le moment de lancer notre rubrique Smash et Bidouille. Monster Block, Monster,
Monster, Monster Block. Ce qui n'arrive dans aucune équipe.
Quoi, c'est ouf.
Les Spacers de Toulouse jouaient ce week-end la 23e journée de Liga contre le leader Tours et ils se sont imposés 3-7 à 0. Une belle victoire des Toulousains, Gauthier.
Oui, Maud, c'est assurément un des meilleurs matchs des joueurs de Stéphane Sapinard. Ils ont tout de suite en fait, mis la pression sur les Tourangeaux qu'on a senti quand même emprunter. C'est d'ailleurs leur deuxième défaite consécutive. Alors le match était plutôt équilibré. Là où ça s'est joué, c'est par moments le manque de précision des joueurs de Tours, notamment dans leur bloc, leur phase d'attaque. Et les Spacers ont bien sûr en profité de tout ça, ils ont cédé que très peu de points gratuits. Et surtout, on a un capitaine, Gilles Jorna, qui a parfaitement joué son rôle dans les moments décisifs. Depuis son retour de blessure, pour rappel, il était blessé en dessous de l'épaule. Et ben, c'est sa meilleure copie, notamment au service, et je peux vous dire que ça fait la différence. Je vous propose d'écouter le coach des Spacers, Stéphane Sapinard. Il revient sur cette victoire.
Et je pense que toute la semaine, on a bien travaillé, on a fait des choses très très positives tous les jours. Tout le monde était très concerné. Donc chapeau aux gars. Et c'est vrai qu'on avait aussi une opportunité, parce que Tours n'est pas dans sa meilleure forme en ce moment. Ils ont quand même quelques bobos, quelques blessures. C'était l'occasion de faire quelque chose d'intéressant ce soir, parce qu'avec la configuration du match, il ne fallait pas passer à côté. Et c'est ce qu'on a réussi à faire.
Et d'autres joueurs se sont aussi illustrés, Gauthier.
Oui, les attaquants ont réalisé une prestation de haut niveau, vraiment. Les deux jeunes attaquants de l'équipe, Pierre Desrouillons et Théo Fort, c'est 27 points marqués, la moitié des points inscrits par l'équipe, si on ne compte pas les fautes. C'est ce genre de prestation qui donne de la confiance à tout le groupe. Et un qui est en confiance en ce moment, c'est justement Pierre Desrouillons. On l'écoute.
Je ressentais de la confiance, tu vois, même si on voyait qu'on était vraiment collés sur le score, qu'ils jouaient bien et tout. Je sais pas, moi je ressentais un peu de confiance et de sérénité, donc on n'a pas eu de vrai creux, quoi. Donc sur ça, vraiment, vraiment content, vraiment heureux. Et on était un peu à la recherche de ça après le match de Nantes où on a pris une grosse désillusion en menant et tout, et sentir que le match, il nous glisse des doigts, c'est un peu... Ça fait vraiment mal, quoi. Donc là, on était un peu remonté et on s'est dit qu'il fallait y aller, quoi.
Oui, et puis un mot sur le Canadien, Dany Demianenko, le central de l'équipe. Il faut souligner sa solidité physique et mentale. Il a joué 15 services pour seulement 2 fautes. C'est vraiment une prestation qui donne de la confiance.
Bon, en somme, une magnifique victoire. C'est quoi les prochains objectifs alors pour les Spacers ?
Alors, les Spacers sont 6e du championnat, donc le prochain match... ce sera contre l'Arago de 7, c'est ce vendredi, on y sera, l'ambiance promet d'être très chaude. Et le prochain gros objectif des hommes de Stéphane Sapinard, c'est le Final Four de la Coupe de France de volley. C'est le 13 mars prochain, ils affrontent Paris. Alors ils s'étaient inclinés contre les Parisiens à domicile, c'était il y a 3 semaines, le jour de la Saint-Valentin d'ailleurs. Alors vu leur dernier match contre Tours, la rencontre promet, il y a de la revanche dans l'air.
Merci Gauthier, on te laisse quitter le studio. Et on rappelle aussi qu'il reste 3 journées dans le championnat. La prochaine rencontre des Spacers aura donc lieu le 6 mars à 7 et tu y seras Gauthier.
Et pour finir notre traditionnel flash, c'est au tour de Corentin de nous rapporter ce qui s'est passé dans le monde sport. Alors Corentin, on entame ce tour de l'actualité sportive avec une triste nouvelle.
Le monde du cyclisme en deuil, on a appris hier soir la disparition de Nicolas Portal. Le directeur sportif de l'équipe Ineos est décédé d'une crise cardiaque. Il était âgé de 40 ans.
Oui, il était un peu l'ange gardien de l'équipe Ineos. Nicolas Portal, c'est celui qui murmurait dans les oreilles de ses cyclistes. Et donc, un peu grâce à lui, ils ont gagné 6 Tours de France, 4 pour Chris Froome, 1 pour Geraint Thomas et Egan Bernal. Nicolas Portal a façonné le rouleau compresseur des Britanniques. On peut le comparer à d'autres grands directeurs sportifs français, Raphaël Geminiani et Cyril Guimard. Mais il ne faut pas oublier pour autant qu'il a été lui aussi coureur avant de devenir directeur sportif. Il naît à Auch dans le Gers et passe au GSC Blagnac. Suivront ensuite 9 saisons comme professionnel chez AG2R Prévoyance, Caisse d'Épargne et Sky. Mais malheureusement, il ne brille qu'une fois dans toute sa carrière. En 2004, c'est avec une victoire d'étape sur le Critérium du Dauphiné. 6 ans plus tard, il arrête sa carrière prématurément à cause d'une arythmie cardiaque. Nicolas Portal a toujours été apprécié des journalistes pour répondre avec professionnalisme et parfois avec malice, mais surtout toujours accompagné de son accent du Sud.
Et la meilleure bosseuse du monde, c'est Perrine Laffont. À seulement 21 ans, la skieuse ariégeoise remporte son 3e globe de cristal en ski de bosse. Et cela alors qu'il reste encore 3 épreuves pour cette Coupe du Monde. Mais avec 7 victoires en 9 manches, la championne olympique est sûre de l'emporter. La deuxième skieuse au classement a d'ailleurs 314 points de retard sur Perrine Laffont, qui continue de marquer un peu plus l'histoire de son sport. Et ce n'est pas la seule sportive régionale à avoir brillé ce week-end. Le Toulousain Simon Gauzy a été sacré champion de France de tennis de table. Numéro 1 français de la discipline, cela faisait 7 ans qu'il n'avait pas réussi à décrocher ce titre. Dimanche, à l'issue d'une finale en 5 manches, il a rompu la malédiction. Cette victoire a donc un goût particulier pour le pongiste que l'on retrouvera cet été aux Jeux Olympiques de Tokyo. On passe d'une raquette à l'autre. En tennis, après avoir renversé Gaël Monfils en demi-finale, Novak Djokovic a remporté le tournoi de Dubaï en battant Stefanos Tsitsipas 6-3, 6-4 en finale. Le Serbe numéro 1 mondial reste invaincu cette année. Il a remporté ses 21 derniers matchs. Autre sportif au sommet, Alexis Pinturo a remporté en ski dimanche le combiné d'Interstoder en Autriche. Il s'est imposé lundi sur le slalom géant. Coup double pour le Savoyard qui se retrouve en tête du classement général de la Coupe du Monde de ski alpin.
Une Coupe du Monde, Corentin, dont la suite du programme reste incertaine.
Effectivement, les phases finales sont prévues en Vénétie, 3e région d'Italie la plus touchée par le coronavirus. La décision de maintenir ou non les courses sera prise vendredi. On rappelle aussi que le CIO se réunit en ce moment à Lausanne pour discuter de l'organisation des Jeux Olympiques prévus à Tokyo. Le coronavirus est au menu des discussions. Le Covid-19 qui affecte aussi des compétitions locales, les championnats de France de cross-country qui devaient avoir lieu ce week-end à Montauban sont finalement annulés. En cyclisme, en revanche, le Paris-Nice est maintenu.
Et on rappelle que la course cycliste débutera dimanche. Merci Corentin, c'est déjà la fin de JT Sport spécial Bayonne. On remercie ceux qui sont là pour le travail de l'ombre, notre valeureuse technicienne, entre autres du soir, Lise. Maud, c'était un plaisir.
Plaisir partagé Geoffroy, et bien sûr un grand merci à vous qui nous écoutez fidèlement, on n'en doute pas.
Ouais, continuez donc de le faire hein, sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, Spotify et Deezer, comme ça on a cité au moins les trois marques, des fois que les géants s'attaquent à nous. Sinon, il y a tout simplement à taper JT Sport sur Internet. Salut à tous.